Bon, bah d'abord bonjour, merci pour l'invitation au Festival Animal. Je voulais m'excuser par ailleurs publiquement d'avoir mis tant de temps avant de confirmer que je m'en vais. Je m'excuse pour les mois que j'ai provoqués par rapport à ça. Bah, voilà. Je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Fabien, je suis doctorant en sciences politiques en fait à l'Université de Nanterre. La science politique là-bas, c'est plutôt une forme de sociologie politique, notamment très influencée par des auteurs comme Pierre Bourdieu ou Norbert Elias. Et en fait, je travaille dans le cadre de ma thèse sur la question animale, sur la cause animale, ses développements au fur et à mesure de l'histoire. Je fais une sociologie historique et politique en fait de cette question-là, la façon dont elle a été traitée, dont elle a évolué au fil du temps. Là, pour cette intervention, je vais principalement m'intéresser en fait à la cause et à la question animale en Angleterre dans cette première formalisation en fait au début du 19e siècle. Pourquoi l'Angleterre? Parce que c'est vraiment dans cette période-là, tout au long du siècle en question, vraiment le pays où la question prend le plus d'ampleur, où sont produites des lois assez importantes, assez restrictives sur la façon de gérer les animaux, où des organisations très importantes comme la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals émergent, je dirais la RSPCA maintenant. Voilà, donc un pays important qui a contribué largement à définir, à développer la question animale et qui a été cité largement en référence pendant toute cette période par les organisations qui l'ont développé dans d'autres pays, en fait, ces questions-là, notamment en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne, ainsi de suite. Donc elle est centrale. Avant vraiment de parler de cette période précisément, je voudrais juste revenir sur la façon dont j'ai, moi, envisagé cette question et dont j'ai finalement élaboré mon objet de recherche. Donc je vais revenir un peu aussi sur la façon dont j'ai commencé à travailler dessus. Moi, j'ai commencé à travailler sur la question animale à partir d'un mémoire de Master 2 qui était censé porter sur l'antispécisme en France. Rétrospectivement, ce travail plutôt, je trouve plutôt décevant à l'heure actuelle. Juste, donc je ne vais pas trop m'étendre dessus parce que j'en ai plutôt honte, mais au moins juste quelque chose, enfin, pour vous signaler, j'avais commencé quand même à essayer de vouloir comprendre les facteurs sociaux, structurels importants qui expliquaient que finalement, ce soit développé à l'heure actuelle des considérations pour l'animal. Donc, je revenais sur des facteurs sociaux et notamment, je m'intéressais à un concept qui a été développé par un sociologue allemand, Norbert Elias, processus de civilisation. Et j'essayais de montrer en quoi ce processus, en fait, ce phénomène social, participait, influait sur justement la construction progressive de la question animale. Pour dire les choses rapidement, donc dans ce mémoire-là, donc le processus de civilisation, c'est parce que les chaînes d'interrelations sociales s'allongent au fur et à mesure, que de plus en plus, avec la construction de l'État et autres, les individus sont de plus dépendants des autres. Les pratiques violentes, en fait, vis-à-vis d'abord des humains, sont de plus en plus disqualifiées. Et toutes les formes de violence vis-à-vis des humains, mais aussi des animaux, deviennent de plus en plus gênantes. Un exemple que prend Elias là-dessus, c'est la question de la découpe de la viande, en fait. Au Moyen-Âge, pendant longtemps, on amenait directement des cadavres entiers, en fait, des animaux à la table, et la découpe, la participation à l'acte de découpe, c'est un acte relativement prestigieux, qui était fait soit par le seigneur de la maisonnée, soit par l'hôte, en fait. Progressivement, Elias constate qu'il y a une gêne qui se développe par rapport à ça. Et la découpe, l'acte de découpe, il va de plus en plus être fait par des serviteurs et en coulisses. On va présenter de plus en plus les morceaux déjà découpés et faire en sorte que la vue du cadavre, enfin, que le cadavre ne soit plus présent sur la table. Ou en tout cas sous forme euphémisée, directement sous des tranches, en fait, concrètement. Donc l'idée pour moi, c'était de montrer que ce processus de civilisation-là, il influait notamment à partir du XVIIIe siècle sur les façons dont on avait exploité l'animal, dont on exploitait l'animal. Progressivement, on essaye, là où la violence se donne à voir le plus clairement par rapport à l'animal, notamment, je ne sais pas, les pratiques des charretiers, frapper les animaux pour les faire avancer, les abattages directement des animaux dans les boucheries, à même la rue, tout ce genre de choses, progressivement, parce qu'elles provoquent une gêne, elles vont être soit interdites, soit reléguées dans des espaces euphémisés, oblitérés. On ne va plus les voir. On ne peut pas les toucher, elles sont nécessaires, on les considère comme nécessaires. Donc, on les met soit à la périphérie des villes, dans des endroits fermés comme les abattoirs, soit par exemple les laboratoires aussi qui se développent à ce moment-là sont fermés. Donc, tous ces endroits-là, donc soit on interdit, soit on euphémise, on oblitère, on fait en sorte que ça ne se voit plus. Et donc ça, concrètement, ce travail sur la question animale, c'est une résultante de ce processus de civilisation. Et pour finir justement rapidement là-dessus, sur mon mémoire, j'ai essayé de montrer concrètement que pour des gens du coup, nés plus tard, qui n'ont pas connu ces dispositifs d'exploitation, ces formes de violence qui rendaient l'exploitation animale comme quelque chose d'évident, parce que toujours sous leur nez, en fait, systématiquement. Comment pour ces gens qui n'ont pas vécu avec ça, du coup, la question de l'exploitation n'est plus du tout une évidence. Et leur participation dans l'exploitation ne l'est plus. Ils se vivent comme des gens civilisés, comme des individus civilisés, n'ayant pas justement, ne prenant pas part, en fait, à quelque forme de violence que ce soit. Et la découverte, pour certains, de ce qu'est l'exploitation animale, provoque un choc, peut provoquer un choc, et au moins une gêne, qui peut être justement gérée par le développement de pratiques alimentaires différentes, végétarisme, véganisme et autres, et par le début, en fait, d'une militantisme. Concrètement, c'est la résultance de ce même processus de civilisation, d'accord, qui donc est ambivalent. Il a permis de cacher, il a permis aussi d'objectiver en partie les animaux, parce que c'est plus facile en fait de les gérer quand ils sont réduits à l'état d'objet, plutôt vraiment considérés comme des êtres vivants. Et en même temps, ce même processus participe des mobilisations récentes qui critiquent ce que le processus de civilisation avait antérieurement constitué. Donc voilà plus ou moins de mémoire, c'était en tout cas là-dessus que j'avais travaillé. Bon, c'était, rétrospectivement, je trouve pas ça vraiment satisfaisant, mais au moins ça m'a permis, ça m'a donné envie en fait de continuer à travailler sur cette question et sur cette thématique. Donc j'ai commencé une thèse, et une thèse qui se voulait en fait comparative. Je voulais comprendre en fait les différentiels de développement en fait de la cause animale, de ces mobilisations contemporaines entre la France, les États-Unis et l'Angleterre. Parce que dans les pays notamment anglophones, elle est beaucoup plus développée, elle a connu vraiment un développement assez rapide à partir des années 60-70, la France beaucoup plus tard ensuite. Je voulais comprendre en fait ces différentiels de développement. Là encore, j'ai en partie, c'est propre de la recherche, on bifurque au fur et à mesure, avec les matériaux que j'ai pu trouver, en me rendant compte finalement que le travail comparatif en soi sur les périodes contemporaines n'était pas satisfaisante, parce qu'il me manquait plein de choses. Toute l'histoire en fait de la cause, je pouvais expliquer aussi les différentiels, ces différentiels-là. J'ai préféré du coup élargir, déjà dans l'espace, et finalement envisager la construction de la cause animale, dans l'espace temporel, plutôt en allant du XVIIIe siècle, là où vraiment ça commence à se construire, jusqu'à nos jours, pour voir comment ça s'est progressivement développé. Et j'ai voulu aussi élargir, pas uniquement travailler sur les mobilisations et les mouvements sociaux, mais aussi sur tous les objets, sur toutes les formes en fait que prend la question animale. Ça va être des lois, les productions de lois, ainsi de suite. Ça va être, des écrits de philosophes, ainsi de suite, ce genre de choses. Prendre tout ça et les considérer donc dans ces différents pays dont je vous ai parlé, France, Angleterre, États-Unis, dans ces périodes élargies. Pour ce faire, j'ai voulu, en fait, j'ai préféré penser et élaborer finalement cette question comme finalement étudier la circulation, la production et la circulation de ce que j'appelle une idéologie ou une nébuleuse idéologique animaliste. Concrètement, c'est quoi idéologie? J'entends par là une volonté, une construction en fait assez normative. Caractérisé par des prescriptions normatives assez fortes, de changer, de faire évoluer en fait les relations entre les hommes et les animaux. Ça se fait sur des bases différentes, sur des bases morales, sur des bases éthiques, philosophiques, ainsi de suite. Mais voilà, concrètement, cette idéologie qui essaye de changer, de faire évoluer en fait les relations entre les hommes et les animaux. Donc voilà. Cette idéologie, elle est matérialisée, en fait, elle se compose de différents états de matière. Donc j'en ai parlé, donc c'est à la fois des mouvements sociaux, des répertoires d'action, des modes d'action différents, ça va être des écrits philosophiques, notamment, ça va être aussi toute une série d'écrits, de tracts, de pamphlets, de mots d'ordre, comme libération animale, droit des animaux et autres. Et aussi, j'ai dit, des dispositifs juridiques, parfois très, très répressifs, sur justement ceux qui brutalisent les animaux, ce genre de choses. Donc tout ça, ce sont les états de matière de cette idéologie. Concrètement, parce que je suis sociologue, ce qui m'intéresse, pour moi une idéologie ça flotte pas dans les airs, ça se dit que c'est pas comme ça, c'est toujours lié à des acteurs, à des groupes sociaux. Donc ce qui m'intéresse concrètement là-dedans, c'est comprendre comment des groupes sociaux produisent, diffusent, se réapproprient ces idéologies-là, les réadaptent en fonction des enjeux dans lesquels ils sont pris. Et concrètement, ça renvoie, en fait, analyse de sociologie, ça me permet de rentrer donc, chez ces acteurs qui produisent cette idéologie-là, chez en fait différents groupes de porte-parole qui prétendent mobiliser et être légitimes pour parler au nom de l'animal. À la fois des militants, comme ici, des militants depuis le 19e siècle, mais aussi l'État, qui va largement vouloir dire en fait quelles sont les relations animales qui sont légitimes et celles qui ne le sont pas, et d'autres groupes scientifiques, aussi exploitants des animaux, voilà, ce genre, voilà, différents groupes d'acteurs qui sont impliqués dans cette volonté du coup de faire changer ou de pérenniser les définitions de l'idéologie, enfin des définitions des relations entre hommes et animaux. Voilà. Donc concrètement, c'est ça qui m'intéresse et que j'étudie, c'est cette configuration de groupes d'acteurs en relation, en concurrence, pour imposer leur vision légitime de la question animale. J'ai parlé de nébuleuse, ça veut dire concrètement que l'idéologie, il n'y a pas qu'une acceptation, il n'y a pas de solution de continuité entre l'idéologie qui est proférée au début du 19e siècle par rapport à l'animal et celle d'aujourd'hui, notamment par les militants antispécistes et autres. Concrètement, donc, ça veut dire qu'il y a des évolutions, des formalisations différentes en fait, de cette idéologie-là, ça forme la nébuleuse, concrètement. Et ce que je vais essayer de montrer maintenant, c'est que ces productions de définitions différentes de cette idéologie, elles renvoient à chaque fois à l'entrée, en fait, dans la configuration des porte-paroles de l'animal, de nouveaux groupes avec des propriétés différentes qui vont essayer d'imposer leur droit à parler au nom des animaux, et donc une nouvelle forme de cette idéologie-là, pour légitimer justement leur volonté de parler au nom de l'animal. Voilà. Et je vais le faire sur, du coup, l'Angleterre, au 19e siècle, en montrant en fait les deux premières formalisations de cette idéologie, les deux premières formes en fait de porte-parole au nom de l'animal. Voilà, tout ça pour ça. Donc je vais un peu plus rentrer maintenant dans le détail, être un peu plus concret. Je m'excuse si ça a été un peu abscon, je m'excuse. Et donc voilà, donc je vais revenir sur donc la manche, je m'intéresse à l'Angleterre à partir de la fin du 18e siècle. Là où vraiment la question animale commence à se constituer, comme un problème public qu'il faut gérer. Ça commence, on peut le voir en fait, avec notamment l'inflation, à partir de ce moment-là, de textes, en fait, de pas mal d'écrits, d'ouvrages, etc., sur la question animale, qui sont de plus en plus produits. Ça renvoie à quoi? Ça renvoie à la fois encore à des réactions par rapport aux théories cartésiennes et aussi enfin, à leur déclinaison par Malebranche de l'animal-machine, qui en Angleterre ont provoqué énormément de réactions et qui en provoquent encore, concrètement, contre cette théorie-là, et qui se fondent notamment sur quelque chose qui est en train de se diviser de plus en plus, des manuels d'histoire naturelle, qui sont de plus en plus importants, et dont ces auteurs, en fait, se réfèrent, pour dire que, un, la théorie de l'animal-machine, selon eux, ne tient pas, et deux, que finalement, vu notamment les exemples cités par les naturalistes qui travaillent sur telle et telle espèce, pour au moins certaines catégories d'animaux, la distance entre l'homme et l'animal ne serait pas aussi importante que ce qu'on avait cru jusque-là. Tout ça, ça participe des prescriptions en fait de fond de ces auteurs, c'est-à-dire qu'il y a des formes de d'interaction entre les animaux qui sont trop cruelles, qui donc faudrait réformer. Donc voilà, donc concrètement, il y a une inflation à ce moment-là vraiment des préoccupations au niveau de l'animal. Ça se traduit encore une fois par les ouvrages, et par plusieurs publications, donc, qui veut dire complètement un intérêt par rapport à ces questions, au moins en Angleterre. Bon, ça, c'est des idées, encore une fois, enfin, ce sont des biens symboliques, et ces biens symboliques qui vont être récupérés par des acteurs aux propriétés particulières, qui vont s'en saisir pour justement constituer ce problème, le problème de la cruauté vis-à-vis des animaux, comme un problème public. Ça se traduit, à partir du début du 19e siècle, en fait, dès 1800, par des propositions de loi faites au Parlement, anglais, pour la réforme ou l'interdiction de certaines pratiques. Notamment, celle qui pose le plus de problèmes à ce moment-là, c'est le bullbaiting. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'était un jeu qui maintenant, je pense, disparu en tout cas en Angleterre. Il s'agissait juste de mettre un taureau face à des chiens et de parier en fait sur ce combat-là, sur le combat entre les chiens et les taureaux, qui finissait en général par des morts, ça c'est évident, et qui était lieu de beaucoup de paris. Une pratique vraiment, pour le coup, beaucoup plus pratique des classes populaires que notre groupe. Donc, beaucoup de préoccupations pour le bull baiting. Il va y avoir plusieurs propositions de loi qui sont à chaque fois refusées en 1800, 1802, au fil des années. D'autres propositions de loi qui portent à la fois sur le bull baiting, mais aussi sur les pratiques des charretiers, qui sont trop grands vis-à-vis des animaux, la question problématique du convoyage des animaux de boucherie, des animaux d'abattage dans les villes, qui sont en général notamment les veaux, qui sont attachés par les pattes dans des chariots, et enfin, voilà, pour rendre en fait le transport plus facile. Voilà ce genre de choses. Finalement, il faut attendre 1822 pour qu'une première loi, en fait, le Martins Act, du nom de Richard Martin, qui est celui qui l'a introduit, soit vraiment passe en fait en Angleterre. Ça touche pas le bull baiting, ce sera après, c'est uniquement sur la question du transport et de la gestion des animaux liés à la boucherie et des animaux de transport en fait, concrètement. Bon, c'était juste un petit retour rapide, et après il y aura d'autres lois qui vont compléter en fait l'arsenal législatif qui se construit à ce moment-là. Donc ces propositions de loi, à chaque fois, elles donnent lieu à des débats. Ces débats, au sein du Parlement, ils permettent de comprendre comment progressivement la question animale se définit dans cette période. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Déjà, j'en ai déjà parlé, on a une focalisation quasiment exclusive, finalement, sur des pratiques, excusez-moi, je retrouve juste, qui sont problématiques pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on estime que la violence qui est montrée, en fait, est contagieuse. Ça peut donner des idées aux gens qui vont je sais pas, avoir les combats de coqs ou les combats de taureaux. Ça peut leur donner des idées, produire d'autres formes de violence. On est dans une période où l'hygiénisme se développe. Donc concrètement, la violence est aussi quelque chose de contagieux. Et parce qu'on voit le spectacle de la violence est autorisé, visible, il peut amener des individus, du coup eux-mêmes, à devenir violents. À l'égard d'animaux, mais aussi, c'est la deuxième idée, à l'égard d'humains. Concrètement, c'est la deuxième idée, cette violence est problématique parce que elle amène d'autres vices. Notamment, il y a beaucoup de discours sur justement ces jeux populaires comme le bull baiting, où on boit beaucoup, on parie, où on se bat quand des gens perdent des paris, où il y a des morts, ainsi de suite. Et concrètement, on a tout un discours qui se développe à ce moment-là, de la violence sur l'animal provoque l'alcoolisme, peut résulter aussi dans la violence par rapport à ses enfants, sur les femmes, ce genre de choses. Il s'agit de contrôler ça. Concrètement là-dessus, ce qui se donne finalement à voir avec ces débats, c'est une focalisation. Tout ce dont j'ai parlé, ce sont uniquement des pratiques des classes populaires. On ne touche qu'à ça. Le bull baiting, c'est essentiellement les prolétaires du qui y vont. Le cockfighting, les bull running aussi, qui sont des problématiques aussi, c'est plutôt les paysans anglais qui sont touchés par ça. Et tout ce qui est convoiement d'animaux, pareil, ce sont les prolétaires. Toujours les classes populaires qui sont touchées, qui sont considérées. Ce sont ces catégories-là, et les pratiques et les comportements de ces individus de classe populaire qui sont considérés comme problématiques et qu'il faut réformer, par le biais notamment de ces lois. Donc, voilà. À partir de 1822-1830, un arsenal législatif qui se met en place. Dans le même temps, et parfois par les mêmes acteurs qui ont intronisé ces propositions de loi au sein du Parlement, on va avoir l'élaboration en fait, d'organisations, justement, qui sont directement intéressées, focalisées sur ces questions animales, et qui veulent justement déjà assurer la publicité de ces lois, bien qu'elles existent, et éventuellement les faire appliquer par eux-mêmes. Je reviendrai là-dessus. En 1824, donc, se crée la RSPCA, j'en ai parlé, je suis désolé pour mon accent anglais qui dit très bien, je parle, c'est une catastrophe. D'autres organisations aussi, on a excusez-moi, je suis très mauvais pour les dates. En 1830, il y a la création en fait, de l'Association for the Promotion of Rational Humanity Towards the Animal Creation, qui est créée par un ecclésiastique, Thomas Greenwood, et par un physicien, Gilles Fenner. Et ensuite, une autre organisation qui va se créer un peu plus tard, qui s'appellera l'Animal Friends Society, qui est créée en fait par un militant très actif au sein de la RSPCA, la première organisation, et qui va faire ses sessions, notamment parce que ses idées, le terme vegan ne s'applique pas à ce moment-là, mais il est dans ses pratiques déjà abolitionniste en fait de beaucoup de choses. Il est trop radical et il est trop zélé dans son application en fait des lois et des lois en question. Ces organisations, elles s'affrontent concrètement et s'affrontent notamment sur la façon dont toujours ça renvoie en partie au débat parlementaire, c'est un prolongement, la façon dont cette question animale, dont cette cause animale doit être structurée, doit être pensée. Concrètement, les questions qui sont posées à ce moment-là, c'est quelles catégories d'animaux sont concernées toujours, quelles pratiques sont combattues et critiquées, on revient toujours là-dessus, et surtout, c'est par quels moyens. Est-ce qu'on doit être coercitif? Est-ce qu'on doit appliquer à la lettre les lois qui sont passées, faire en sorte que tous les contrevenants payent des amendes, aillent en prison s'ils récidivent? Ou est-ce qu'il faut au contraire accentuer sur le côté éducation et réformateur? C'est-à-dire, par exemple, il y a des pratiques qu'il faudrait réformer, voire abolir, pour faire en sorte que la violence vis-à-vis de l'animal et la cruauté disparaissent. Donc ces débats-là se développent. Et donc concrètement, ce qui se joue derrière, donc, je ne sais pas, une confédération de porte-parole, ce sont des débats pour savoir, pour définir comment parler au nom de l'animal, à ce moment-là. Comment être légitime pour parler au nom de l'animal. Je finis là-dessus. Finalement, à partir des années 1840, la RSPCA va devenir l'organisation quasiment hégémonique en fait là-dessus. Parce qu'elle bénéficie déjà du patronage de la reine Victoria, à partir justement de cette période, aussi pour le coup de pas mal de soutien relativement prestigieux. Elle s'impose comme l'organisation qui définit et qui impose justement sa conception de la cause animale et de cette forme de représentation de l'animal. C'est une organisation qui, par rapport à ce que va être la SPA créée quelques années plus tard, est beaucoup plus importante, a beaucoup plus de moyens. Et elle est beaucoup plus puissante. Pourquoi? Parce qu'en son sein, il y a beaucoup de députés, des gens qui sont souvent relativement connus, prestigieux pour leurs activités philanthropiques à côté, qui donc, quand ils ont besoin d'une législation, vont directement la faire passer. En général, ils ont des réseaux en fait, parlementaires qui leur permettent de la faire passer. Et qui, à partir des années 1840, en plus, ont réussi à obtenir que la RSPCA applique elle-même ses lois. Concrètement, la RSPCA peut embaucher des gens qui sont assermentés pour appliquer directement les lois, pour verbaliser les contrevenants, les individus qui sont cruels vis-à-vis des animaux. Concrètement, engager des gens comme ça, qui sont souvent d'anciens policiers, ça demande beaucoup d'argent, c'est des ressources relativement importantes, et disons-le franchement, la RSPCA à ce moment-là redéfinit, enfin, par cette, pour le coup, pour des moyens quand même très clairement coercitifs, hein, beaucoup plus que qu'éducation, l'attitude et les comportements des classes populaires, au moins, vis-à-vis de l'animal. La majorité des pratiques violentes vont commencer à devenir de plus en plus, vont décliner, ainsi de suite. Le bullbaiting disparaît, le bullrunning disparaît, les cockfighting deviennent aussi relativement marginaux, ainsi de suite. Donc voilà. Donc là, c'était vraiment juste pour vous montrer un peu comment on se construit la construction. J'ai été très factuel sur de cette chose-là. Sur une analyse, en fait, des logiques sociales qui ont permis, qui sont au principe de cette construction-là. Je vais revenir du coup sur les propriétés sociales et les positions des acteurs qui vraiment ont construit ça, se sont engagés dans la RSPCA, ont fait passer des propositions de loi. Concrètement, on voit, ce sont souvent des gens qui sont issus de la gentry, de l'aristocratie, de la haute bourgeoisie anglaise, plutôt bourgeoisie d'affaires, et qui sont souvent impliqués par ailleurs dans d'autres activités philanthropiques, à la fois l'abolitionnisme, l'abolition de l'esclavage, beaucoup de choses par rapport aux réformes du système pénitentiaire, par rapport à l'éducation, ce genre de choses. Donc concrètement, des gens qui ont énormément de ressources et qui du coup vont faire en sorte d'imposer cette question-là, parce qu'ils ont les ressources pour le faire. Concrètement, dans cette période, j'ai arrêté de dire concrètement, les instances et les institutions qui travaillent sur la cause animale sont finalement pratiquement un peu comme des lieux neutres. Je vous explique ce que sont des lieux neutres, c'est-à-dire des lieux où peuvent se rencontrer différentes fractions des classes dominantes. Là, encore une fois, j'ai parlé juste gentry, aristocratie, haute bourgeoisie anglaise, qui sont et aussi une classe moyenne relativement aisée, plutôt adepte. Tout ce qui est pas quakerisme, mais évangélisme, ainsi de ce genre de choses. Qui se rencontrent pour discuter finalement des problématiques, du problème que posent les classes populaires et la violence des classes populaires. C'est pour ça, ça explique largement pourquoi la cause animale est concrètement définie à ce moment-là contre les pratiques des classes populaires et uniquement. Donc c'est un lieu neutre où ça se discute. Un lieu neutre parmi d'autres. Hein. Toutes les associations philanthropiques sont dans cette logique-là. Il s'agit, dans une période qui est relativement troublée en Angleterre, parce que émergent les mouvements chartistes, parce qu'il y a beaucoup de discussions justement sur les privilèges de la noblesse, etc. Donc une période troublée, où les rapports de domination sont disputés. Et donc là, ce sont des lieux neutres où on peut discuter pour repenser, essayer de redéfinir en fait les rapports de domination qui justement ne fonctionnent plus.
Des lieux neutres parce que le rapport à l'animal n'est pas problématisé aussi comme un rapport de domination.
Oui, de toute façon, oui, je n'ai pas pour. Oui, c'est encore une fois, j'ai peut-être pas expliqué. Finalement, la question animale est relativement secondaire. Alors, là ici, ce qui pourrait être problématique, c'est la cruauté des classes populaires et la violence des classes populaires par rapport aux animaux. Mais c'est ça qui pose problème. Et si je dis lieu neutre, c'est parce que justement parce qu'on on porte sur c'est des lieux où finalement la concurrence entre ces fractions de classe populaire est mise entre parenthèses. Voilà. On se focalise sur la cause animale, c'est quelque chose où relativement on n'a pas beaucoup d'intérêt chacun, donc on peut discuter de ça. Et c'est par ce biais qu'on redéfinit encore une fois, enfin on contribue à redéfinir la rapport de domination. Bref. Concrètement, excusez-moi, je me perds à moitié. Je voudrais juste dire quelque chose parce que là pour l'instant, ce que j'ai dit, ça tendrait à donner l'image de ces gens qui sont les premiers avocats de la cause animale, comme des gens très, très cyniques finalement, qui ne font ça que pour finalement mieux contrôler les pauvres. C'est fondamentalement l'interprétation de Karl Marx dans le manifeste, c'est ce qu'il dit sur les associations philanthropes, et il s'y met aussi dedans les associations justement zoophiles. Bon, concrètement, pour moi, cette interprétation, elle n'est pas convaincante en soi. L'interprétation inverse, de dire non, ils sont tout à fait moraux, etc., non plus. Je pense concrètement, ce qui joue derrière aussi, pourquoi est-ce que cette question-là devient vraiment prégnante en ce moment-là, c'est parce qu'il y a un décalage perçu qui ces individus perçoivent un décalage très important en fait entre la violence non euphémisée, non codifiée de la classe populaire vis-à-vis de l'animal. Encore une fois, c'est vraiment, ça se fait dans la rue, c'est pas du tout contrôlé, il n'y a pas du tout de code ou de pratique, et leur violence à eux par rapport à l'animal, notamment, je sais pas, les pratiques de chasse à cour qui ont été codifiées très récemment et qui du coup sont considérées vraiment par ces acteurs, et je veux dire, c'est pas du tout cynique de leur part, comme une expression assez de pratique civilisée. Parce qu'ils ne touchent pas directement l'animal, ils ne le tuent pas eux-mêmes, ils passent juste par la médiation d'une meute pour tuer. C'est déjà un progrès énorme par rapport à ce qu'était la chasse avant. Donc c'est civilisé. À l'inverse des pratiques de classe populaire qui sont incontrôlées. Donc voilà, encore une fois, c'est ça qui joue largement, et pas, ne pensez pas que c'est quelque chose de cynique qui joue derrière. C'est des logiques sociales, encore une fois, importante, c'est lié à des codifications. Pour finir là-dessus, juste, et pour finalement résumer sur cette première définition de l'idéologie animaliste, elle est concrètement une forme de propédeutique. Un propédeutique, c'est-à-dire, c'est un enseignement, on dit aux classes populaires que leurs pratiques ne sont pas bonnes et on essaye de les moraliser, de leur donner d'autres pratiques. Et en fait, c'est un enseignement qui vise à autre chose. En enseignant ça, on enseigne autre chose. On enseigne en fait aux classes populaires à être moins violentes, à avoir finalement des relations plus civilisées qui permettent du coup de maintenir les rapports de domination tels qu'ils sont. Donc la cause animale est une propédeutique. Comme je ne sais pas, l'exemple le plus... un enseignement propédeutique, c'est on vous enseigne la flûte en sixième pour vous enseigner la musique. Voilà, là, c'est pareil. On tape sur vous, enfin... Pour enseigner la musique, enfin juste la question de la musique. C'est pas la flûte en soi, l'idée c'est de travailler, enfin là, c'est pareil, c'est une propédeutique, cette question animale. En tout cas, c'est la première définition. Voilà, donc concrètement, je me répète, mais voilà. Dire finalement ce que sont les mœurs convenables à adopter vis-à-vis des animaux, c'est donc prescrire une moralité plus forte pour les classes populaires, c'est domestiquer les dominés. Domestiquer les dominés. Et par là, ce qui se crée aussi, c'est de nouveaux rapports d'autorité. Hein. Concrètement, jusque-là, l'exemple seul des classes aisées devait suffire. Là, maintenant, on passe vraiment vers quelque chose de beaucoup plus. Des dominations beaucoup plus rapprochées. On va vraiment influer directement, influencer sur leurs pratiques, concrètement, sans se contenter juste d'être là. Donc, c'est des nouveaux rapports de domination qui se créent, qui s'inventent, en fait, dans ces périodes-là. Ce qui me fait dire aussi, et je finirai sur cette première construction comme ça, que l'idéologie animaliste, elle est souvent et largement aussi une forme d'amphibologie. Amphibologie, c'est... en logique, c'est une construction grammaticale où une phrase va avoir deux sens différents. Donc là, pareil, cette définition-là, ça renvoie à d'autres choses et à l'invention de rapports de domination. Et souvent, c'est ça. Donc, aux animaux, il y a des considérations morales qui vont jouer. Hein. Là, je vous l'ai montré, concrètement, les classes dominantes qui font ça sont vraiment choquées par les pratiques des personnes dominées. C'est pas le problème. Mais derrière, il y a aussi des logiques sociales fortes, des enjeux sociaux beaucoup plus importants, qui renvoient à une configuration sociale beaucoup plus... Donc voilà pour cette première définition. J'irai beaucoup plus vite sur la deuxième, parce que déjà, je suis en train de travailler dessus et j'ai un peu peur d'être moins clair. La deuxième définition... de la question animale, ça se met en place à partir des années 1860-1870, toujours en Angleterre, je parle uniquement d'Angleterre. Pardon, 1860, ouais. C'est vraiment à ce moment-là, concrètement, que cette première définition va commencer, enfin, que les critiques, en fait, de cette première définition de la cause, de cette première façon de parler au nom de l'animal, vont commencer à se systématiser. Ça passe par des discussions autour notamment de pratiques problématiques que sont la vivisection, l'expérimentation animale en général, et la chasse à courre, qui jusque-là n'avait quasiment pas été considérée par les groupes. Il y avait eu des discussions, mais relativement isolées. Là, ça commence à devenir collectif. Il y a des groupes qui se constituent, des débats qui sont menés, et on va même avoir, pour le coup, une forme de sécession, en fait. Des scissions et des groupes qui se créent, qui sont spécifiquement dédiés à la question, par exemple, de la vivisection, ou à la question, par exemple, de l'interdiction de la chasse à courre. Concrètement, et je m'attarderai pas beaucoup plus, mais on assiste à quoi ? On assiste à une forme de détournement, en fait, de la première définition qui était donnée. Jusque-là, s'appliquait aux classes populaires. On retourne vers les classes dominantes. Sont les pratiques des classes dominantes, les physiologistes, les médecins, et la noblesse et la gentry, qui sont ceux qui chassent, qui sont maintenant disqualifiés, qui sont requalifiés comme étant cruels également. Donc concrètement, voilà, on retourne, et pour un principe de systématisation, en fait, et de cohérence, tout simplement, de cette cause-là, on va vouloir donc taper et moraliser les classes dominantes dans leur relation à l'animal. Je vous l'ai dit à chaque fois, je pense que les définitions différentes de l'idéologie animaliste, ça renvoie à l'entrée en fait de nouveaux groupes au sein de la configuration et de nouveaux individus, de nouveaux groupes sociaux qui veulent eux aussi, qui prétendent eux aussi parler, être légitimes pour parler au nom de l'animal. Là, concrètement, à ce moment-là, dans les années 1860-1870, émergent de plus en plus et s'affirment des militants et des militantes féministes, enfin, suffragettes, etc. Des petits intellectuels liés souvent à la Fabian Society et aux organisations socialistes, en fait, de cette période-là. Ou des syndicalistes liés au mouvement chartiste. La propriété de ces acteurs vraiment influe concrètement sur la façon, du coup, dont ils envisagent la question animale. Pourquoi ils retournent, en fait, la chose. Ils le font pourquoi ? Ils le font sans doute largement, déjà parce que... comme je vous l'ai dit, la RSPCA a vraiment moralisé. Elle a fait en sorte que les attitudes jusque-là qui étaient prégnantes disparaissent pour en mettre d'autres. Et donc pour les acteurs pour ces acteurs-là qui sont des dominés, ça a été intériorisé. Donc il s'agit juste de retourner la question par rapport aux dominants. Aussi concrètement, ce qu'ils jouent derrière, Et c'est vraiment quelque chose de très fort, notamment sur la dissection. C'est que concrètement, pendant longtemps, et encore dans ces périodes-là et encore maintenant, souvent pour disqualifier des groupes sociaux, on les animalise, on fait des procès en animalité, on leur donne des caractéristiques animales pour justement les disqualifier. C'était le cas des femmes, c'était le cas des noirs, etc., des pauvres aussi, enfin, ce genre, enfin, voilà, systématiquement. Parce qu'il y a eu une forme de syncrétisme, de confusion entre ces différents genres, ce syncrétisme-là, il favorise concrètement l'identification des dominés à l'animal. C'est vraiment très fort dans notamment les textes des féministes et des femmes qui travaillent sur la dissection à ce moment-là. Il y a vraiment un rapport d'identification à l'animal. Pourquoi sur la dissection notamment? Parce que finalement, la dissection qui est définie alors comme un arbitraire, en fait, la manifestation de l'arbitraire du pouvoir médical, du pouvoir de la classe médicale, elle se donne à voir finalement à la fois sur les femmes, le corps des femmes, parce que corps malade ou corps fragile, donc il faut, c'est aux médecins de les soigner et les soigner comme ils le veulent en fait concrètement, mais aussi contre le corps de l'animal. Pareil pour le corps des pauvres. Julia, pendant cette période-là concrètement, en Angleterre, beaucoup de discussions, beaucoup de récits qui s'accumulent au sein des classes populaires sur des médecins qui expérimenteraient directement sur les membres des classes populaires. Concrètement, il y a vraiment un rapport d'analogie fort entre la situation de l'animal sous le couteau du dissectionniste et la situation des membres des classes populaires ou des femmes soumises au pouvoir des médecins. Et donc concrètement, voilà, se définit donc à ce moment-là progressivement dans l'interaction entre ces nouveaux groupes qui veulent s'imposer donc à la fois contre les pratiques de ces acteurs mais aussi contre les organisations existantes au sein notamment de la RSPCA qui jusque-là n'avait pas voulu prendre en compte ces questions-là pour du coup définir une nouvelle forme d'avocature de représentation de l'animal. Et donc une nouvelle idéologie. Voilà, je vais terminer là-dessus. Donc, encore une fois, toujours ces logiques d'anti-biologie derrière. Concrètement, ce qui se joue, concrètement, pourquoi ça émerge à ce moment-là, pourquoi ces groupes-là, ça renvoie à une évolution des différentiels de pouvoir entre les groupes sociaux en Angleterre. Et notamment parce que justement les féministes prennent plus d'ampleur, parce que les mouvements chartistes prennent plus d'ampleur, ils vont pouvoir aussi prétendre parler au nom de l'animal contre ceux qui jusque-là étaient les représentants institués, légitimes, donc plutôt les classes dominantes de l'animal. Voilà, je vous remercie.